France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza. On vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui déborde de son lit. Nouvelle étape dans notre thématique sur l'immersion, en compagnie d'Uriel Barthélémy, compositeur, batteur, improvisateur, qui a installé ses sons et sa musique au Générateur de Gentilly en Île-de-France, une installation qui vient tout juste de se terminer. Une expérience entre son et vidéo immersive appelée « Les yeux du grand manteau de nuit ». Une installation dans laquelle le public joue et déambule, tandis que le musicien y donne des performances avec sa batterie. Déroutant. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des miniatures en boue de Jean avec des sons. Et comme chaque mardi, un son qui découpe tout. Le Cri du Patchwork, thème numéro 34, épisode numéro 2, séquence numéro 1.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. L'hélicoptère, un engin associé au son de ses pales d'hélice, le fameux ou à peu près. Un hélicoptère, c'est une forme d'insecte motorisé, et ça, Pierre-Henri s'en est souvenu. En écho à notre sonothèque de la semaine dernière sur le grouillement, voici la toute fin de l'ouverture aux insectes issus d'Histoire naturelle de 1997. L'engin volant entre en écho avec les vrombissantes envolées de coléoptères et autres bestioles. On retrouve ce parallèle entre une nuée d'insectes et le son d'un hélicoptère en ouverture du quatuor Black Angels de George Crumb. Composé en pleine guerre du Vietnam, ce quatuor, à la fois sombre et lumineux, est devenu au fil de son écriture une réflexion sonore sur les enjeux de cette guerre absurde. Et les crissements des insectes résonnent immanquablement comme autant d'hélicoptères menaçants. Et quand on parle de Vietnam et d'hélicoptères, on pense évidemment à la fameuse scène d'Apocalypse Now, superposant à l'envol de meurtriers hélicoptères la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Ou comment créer du sens en détournant deux objets sonores totalement opposés. Quoique... de ces hélicoptères survolant la jungle vietnamienne est resté gravé dans la mémoire des soldats américains revenus de cet enfer. Billy Joel, dans Goodnight Saigon, ouvre ainsi cette chanson sur les séquelles de la guerre du Vietnam par un hélicoptère, à la fois réel et trafiqué ou fabriqué. Comme quantité de morceaux qui débutent avec un hélicoptère, petit patchwork d'hélicoptères en ouverture. a son truc pour faire l'hélicoptère. Soit en samplant un hélicoptère réel, ou en le reconstituant par l'entremise d'un ordinateur ou d'un instrument. Créer un effet d'hélicoptère est largement partagé par nombre de compositeurs, en particulier avec les instruments à vent, avec le fameux jeu de langue. Le compositeur et guitariste Santiago Quintans demande expressément sur la partition de Brushes de créer un effet hélicoptère au saxophone baryton. Je dis bien effet, car on n'y entend pas un hélicoptère, mais des bribes de pales furtives. Mais si vous adjoignez à votre guitare électrique une armée d'effets en tout genre, vous pourrez très bien obtenir un effet d'hélicoptère. Prenez le groupe Audioslave, réunissant les instrumentistes de Rage Against the Machine et le regretté chanteur du groupe Soundgarden. Au tout début de Cochise, Tom Morello, guitariste au son ravageur, nous donne l'illusion de pales tournoyant uniquement grâce à son instrument. Magique. Finalement, ce qui caractérise un son d'hélicoptère, c'est ce débit constant de courts impacts entrecoupés de tout petits silences. Elliot Sharp, compositeur, improvisateur et guitariste, utilise ce schéma sonore pour son Helicopters, composé pour son ensemble Carbone. Entre guitare électrique, glissando en continu à l'arrière-plan et débit constant des percussions, l'impression d'hélicoptère est bien là. Mais bon, quand on parle d'hélicoptère, on ne peut pas ne pas mentionner l'hélicoptère Streich Quartet de Karlheinz Stockhausen. J'en ai tellement parlé dans le Cri du Patchwork que je vais éviter de me répéter aujourd'hui. Il suffit d'écouter le dialogue entre ces quatre hélices en plein vol et ces quatre instruments en trémolo constant pour comprendre pourquoi Stockhausen a voulu créer ce dispositif complètement dingue. Entre les cordes frottées et les hélicoptères. Et pourtant, un hélicoptère est généralement utilisé pour couper la chic, stopper tout développement musical, imposer sa lourdeur et sa sonorité englobante. Un exemple qui fait écho à nos précédentes sonothèques, Another Brick in the Wall des Pink Floyd, en plein solo mythique de David Gilmour. Compositeur et performeur Terry Fox, installé à Berlin dans les années 70, a enregistré les sons de ses hélicoptères qui passaient tous les jours non loin de chez lui. Il en a créé Berlino, une œuvre faisant alterner hélicoptères, bruit de pluie battante et sons de cordes de piano tendues dans un espace vide. Berlino de Terry Fox, ou comment des gestes sur des cordes métalliques font écho au de l'hélicoptère.
Vous voyez qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Uriel Barthélémy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes batteur, improvisateur, compositeur. Oui. Et vous venez tout juste de désinstaller une installation que vous aviez produite au Générateur à Gentilly, en Ile-de-France. Une installation qui s'appelait Les Yeux du Grand Manteau de Nuit, qui sera repris en juin prochain au sein de Césarée, dans un festival qui s'appellera la Magnifique Society. Et cette installation, vous l'avez appelée immersive parce qu'elle mêle à la fois le son, l'image, mais surtout l'interaction. Et on pourrait dire que c'est une forme que vous adorez, ça, Uriel Barthélémy, pouvoir faire interagir sur votre musique, votre univers sonore, n'importe qui viendrait voir votre œuvre.
Que j'adore ça, je sais pas, mais effectivement, ça peut être très amusant. Après, pour cette installation, là, j'ai mis la batterie à disposition du public. Mmh. Mais il interagit pas que sur le son, c'est aussi sur l'image.
Oui, parce qu'il y a une grande flopée d'écrans, on est vraiment entouré d'écrans et de HP qui vous permettent vraiment de s'immerger dans votre son.
Ouais, c'est un dispositif qui est en trois écrans, mais ça reste assez frontal, enfin en tout cas pour ce qui est de l'image. Et effectivement, il y a un espèce d'acousmonium un peu étrange disposé au-dessus des spectateurs auditeurs, qui est constitué de 40 petites enceintes qu'on a construites nous-mêmes. et voilà, après, l'idée de faire participer les gens, ça me semblait assez intéressant. Déjà pour faire vivre l'installation, parce que ça m'arrive d'entrer dans des espaces, je sais pas, d'art contemporain, où par exemple il y a de l'art vidéo, alors ça va être des grands écrans, mais le spectateur n'a pas une vraie partie active en fait. Et je pense que c'est intéressant d'explorer ça. Et de le faire via un instrument de musique, qui est un truc, je pense, qui n'est pas fait très, très souvent. Et surtout, la batterie, qui est, je pense, un instrument dont les gens ont le moins peur. C'est-à-dire que si y a une batterie sur scène à la fin d'un concert, il y a forcément quelqu'un qui va taper sur la cymbale.
Ouais, j'ai connu ça.
Ouais, il y avait cette idée-là, en fait, de proposer ça aux gens. Et je pense que ça marche plutôt pas mal. Les gens se prêtent au jeu assez vite. Donc au début, il y a une forme d'appréhension, mais assez rapidement, il se lâche. Et surtout, il se lâche, c'est une façon de parler, évidemment, ça dépend qui le fait. Ça dépend aussi de la lisibilité de l'interaction. Ça pose aussi cette question, parce que si c'est pas lisible, ça marche pas. Donc les gens, ils ne jouent pas, en fait.
Oui, ils ne voient pas du tout ce qu'ils peuvent déclencher, sur quoi ils peuvent influer au sein de l'œuvre.
Voilà, ouais. Et en fait, dans cette installation, il y a deux niveaux d'interaction. Donc, il y en a un qui est très immédiat, très lisible. Si on joue, on switch une image ou on déclenche un son qui circule au-dessus de nous, etc. Et il y a un autre niveau d'interaction qui est une analyse des performances. Parce qu'en fait, au sein de cette installation, j'ai aussi imaginé une série de performances qui font vivre l'installation, mais d'une autre manière et qui la dirigent au niveau de la narration visuelle.
C'est-à-dire que tout d'un coup, le film va changer, on va se balader dans votre œuvre au fur et à mesure, et ça va changer à chaque fois. Vous parlez de performance, c'est-à-dire que vous avez joué dans votre propre œuvre, voilà, à la batterie, accompagné aussi d'autres musiciens comme Yann Joussin, qu'on a reçu ici même, ouais, Gaspard Claus, qui sont des musiciens qui sont aussi improvisateurs, voilà, et que le discours musical va influer sur l'organisation visuelle de votre œuvre.
C'est ça, parce qu'en fait, il y a que des images de forêt, beaucoup de canopées, des troncs d'arbres, des forêts vues du dessus, des feuillages très proches. Et en fait, tout ça, ça peut faire une espèce de narration abstraite, un peu étrange. On est obligé de plonger là-dedans. C'est très lent, ou alors c'est en cut-up, ça dépend des moments, mais le mood général est très lent, c'est vraiment une contemplation. Mais l'idée, c'est que si on revient, on ne voit pas la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes forêts.
Oui, c'est ça. On aura toujours une recréation qui se fera, quoi.
Ben, c'est dans l'idéal. Après, on alimente la banque de données, en fait. Donc l'idée, c'est que si ça rejoue ailleurs, on puisse aller filmer les forêts autour et ajouter ça à la banque de données. Si on va, je sais pas, si on va en Chine, peut-être on mettra la forêt de bambou, je sais pas. Quelque chose comme ça.
Affaire à suivre. Et je vous propose justement d'écouter un extrait d'un des tableaux qu'on va écouter au complet. Un tableau dans lequel on entend votre univers musical, mais après on entendra des extraits où on verra comment l'interaction peut influer sur votre propre musique, Uriel Barthélémy. Un tableau complet, extrait des yeux du grand motto de nuit, une pièce de Uriel Barthélémy. Uriel, là, on entend une musique qui est composée réellement. On entend vos espaces électroacoustiques, surtout avec ces différents plans, ces différentes perspectives aussi. On entend toujours ce fond très sombre et puis à la fois des tout petits éléments qui se rapprochent au creux de l'oreille. Ouais. Mais ici, ce n'est pas une pièce interactive. Là, on est dans une interaction qui est ailleurs, dans les yeux du grand manteau de nuit. C'est la vidéo qui interagit.
C'est ça. Pour ce tableau-là, voilà, c'est la batterie joue sur l'image, là, directement. Ce qu'il faut aussi imaginer, c'est que là, c'est vraiment la partie électronique du tableau. Mais comme les gens sont appelés à jouer de la batterie... il faut imaginer la batterie, voilà. C'est des tableaux qui laissent de la place aussi pour les spectateurs. Quoi. S'il y a pas d'espace, les gens ne sont pas invités à jouer en fait. Donc
là-dessus, on peut entendre tout à fait des sons de batterie qui vont être joués avec des non-musiciens qui vont faire peut-être n'importe quoi sur la batterie. Pour vous, par rapport au métier du compositeur, ces sons rajoutés complètement aléatoirement par des personnes, est-ce que c'est une manière de co-composer quelque part avec le public une musique qui se fera à un seul moment dans votre existence ?
J'avais pas envisagé ça comme ça, mais... Pourquoi pas? Après, non, en fait, moi, c'est plus... j'irais pas jusqu'à dire co-composer, mais en tout cas, c'est sûr que ça apporte de la vie et ça peut toujours suggérer des choses assez étonnantes. Il y a des gens qui vont avoir un phrasé et comme ça, sans le savoir, en fait, et c'est toujours assez étonnant, quoi.
Et qui vont jouer, justement, avec ce qu'ils entendent, en plus.
Oui, ouais. En plus, ouais, complètement, ouais.
Alors ça permet de dire aussi que vous avez travaillé en étroite collaboration avec Ira Gaël Gervais qui fait la programmation vidéo justement pour cette manière de contrôler tout l'espace visuel et aussi sur une scénographie de Sarah Grandjean où ils travaillent très fréquemment ensemble justement pour imaginer des dispositifs nombreux et variés autour de l'image.
C'est ça.
Et pour vous, de travailler sur ce dispositif, on va dire, interactif, c'est aussi de demander à composer. On va écouter un extrait d'une composition qui se fait lorsque l'on va déclencher à la batterie différents patterns qui sont à superposer. Et finalement, là, vous nous avez proposé une version.
Voilà, qui, en fait, il n'y a pas de vraie version, quoi. C'est toujours en mouvement. Mmh. Donc, c'est juste un état comme ça.
un extrait d'une composition à réaliser dans l'installation d'Uriel Barthélémy qui s'appelle Les yeux du grand manteau de nuit. Une installation qui demande à jouer de la batterie pour pouvoir justement superposer ces différents patterns que vous entendez. Alors là, on a différentes couches, on entend une sorte de grincement continu, une sorte d'harmonie qui permet vraiment une sorte de pôle qui n'arrête pas de se balader, puis un kick, une grosse caisse qui est très rythmique. Et tout ça, finalement, sont des patterns qu'on pourrait tout à fait agencer complètement différemment.
Oui, oui, complètement.
Là, on est dans une forme d'aléatoire, en fait, de composition aléatoire.
Ouais, c'est de l'aléatoire très contrôlé, mais quand même aléatoire.
Alors, l'aléatoire contrôlé, c'est-à-dire que vous êtes programmateur aussi en ordinateur, c'est-à-dire que vous travaillez sur des patchs qui vont vous permettre de générer de la musique en temps réel,
ouais.
Dans tout ce que vous avez fait comme dispositif, que ce soit pour le théâtre ou bien pour les arts de la marionnette, parce que vous avez beaucoup travaillé justement pour la scène,
ouais.
C'est-à-dire travailler sur des patchs qui permettent de lancer de la musique. Ici, en l'occurrence, votre musique est injectée dans le patch et l'ordinateur, lui, va gérer la composition en fonction de l'action du public dans la salle.
Bah, y a des moments où ça fonctionne comme ça, mmh. Tout à fait. Donc, c'est des patchs qui sont faits dans Max MSP.
Oui.
En fonction des tableaux, en fait, y a cette notion de rendre palpable la composition pour les gens qui sont sur la batterie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des tableaux, par exemple, ils vont entrer dans la salle et il ne va rien se passer, en fait.
Ouais.
Et il faut qu'ils jouent.
Oui, c'est le seul moyen de faire déclencher l'installation.
Voilà. Donc, on est quand même obligé de limiter ça parce que sinon, il se passe vraiment rien. Donc, il y a des espèces d'algorithmes comme ça qui déclenchent de temps en temps selon les tableaux. C'est le fonctionnement par tableau n'est pas du tout le même, en fait. C'est une espèce d'architecture mouvante, quoi. Tout ça, c'est... Voilà, il y a des passages où, effectivement, il y a des petits moteurs qui, des fois, déclenchent des sons très... des petites fulgurances comme ça qui disent venez jouer quoi. Et après si les gens jouent, ils peuvent se rendre compte qu'effectivement ils ont un vrai impact sur le son et l'image. Je sais pas, il peut y avoir une espèce de drone qui est là, qui ne module pas. Et si je mets un coup sur le tom bass par exemple, ça va changer l'octave ou ça va changer le spectre d'harmonique, enfin l'ouverture d'harmonique, ce genre de choses. Et à l'image, ça va faire apparaître en fonction des tableaux, toujours pareil, ça va faire des petites fulgurances comme ça, d'images figées, ou ça va faire accélérer l'image en mouvement qui est déjà là. Enfin voilà, ce genre de relation. Mais ça, c'est des interactions très directes, quoi.
Et cette idée d'aléatoire, de quelque chose qui va se faire dans un temps présent, vraiment, on est dans un temps réel. On le voit aussi avec votre gestion de cet effet de granulation qui est très présent dans votre style musical, puisque on l'a entendu, par exemple, on a toujours la présence de micro-sons qui sont toujours quelque part derrière dans votre texture.
Ouais.
Et là, on va écouter deux extraits qui nous permettent d'entendre cette forme de granulation, des bruits qui vraiment se baladent autour de nous. Pour vous, il y a une manière aussi de créer un espace qui est toujours en renouvellement avec ces 40 enceintes.
En tout cas, c'est l'idée, ouais. C'est de faire un espace, un lieu spatio-temporel vivant, quoi. Le plus vivant possible, et qui inclut, donc, les spectateurs.
Qui sont au centre du dispositif, quoi, vraiment.
Ouais.
Deux extraits issus des Yeux du Grand Manteau de Nuit, une installation d'Uriel Barthélémy qui était présente dernièrement au Générateur à Gentilly et qui sera remontée en juin pour le festival La Magnifique Society à Reims. Une installation dans laquelle on entend justement tous ces petits éléments, ces micro-sons qui n'arrêtent pas de se balader, donc sur une sorte de grande canopée de 40 enceintes. Et tous ces sons-là sont complètement aléatoires dans leur trajet, c'est-à-dire qu'ils sont, composés, mais leur trajectoire est aléatoire, comme étant un renouvellement aussi de nos oreilles, de nos manières d'entendre chaque élément. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une sorte de donnée chez dans votre style musical, Uriel Barthélémy, d'avoir cette matière qui n'arrête pas de bouger à l'intérieur de nos oreilles?
Oui, je pense qu'on peut dire ça, effectivement. Quelque part, je fais une musique qui est assez urbaine. Il y a cette notion de couche qui superpose et qui circule très vite, en fait. Je pense que c'est un bout de langage qui est assez constant, en fait, dans ce que je fais. Par rapport aux extraits qu'on a écoutés, il y a différents fonctionnements, mais par exemple, dans le premier extrait, ça donne un peu une idée de la circulation, qui serait une circulation assez linéaire, en fait, la circulation dans les enceintes. Et en fait, c'est des matières qui ont été faites à partir de boucles sur la batterie, en fait. Donc, si on joue, ça va être mis en boucle et ça va donner ce genre de texture qui après circule au-dessus de nos têtes. Mmh. Et le deuxième extrait, lui, fonctionne vraiment comme des petits pixels qui circuleraient très vite, en fait. Et effectivement, là, c'est aléatoire. Le déplacement est aléatoire. La seule donnée, c'est qu'il faut pas que ça se répète.
D'accord.
Voilà.
Ouais. C'est-à-dire que c'est une donnée de composition, ne pas se répéter.
Quoi. Bah, quand même, ouais. C'est, je pense que c'est un axe sur lequel pas mal de gens se sont arrachés les cheveux. Je sais pas, j'imagine qu'on peut citer O-Taker, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur ce genre d'algorithme, qui peuvent générer des morceaux entiers qui durent une heure et demie sans rien faire, finalement. Ils ont juste à lancer leur patch et ça va pas se répéter. Donc, il y a cette idée-là. Mmh. Ouais, donc cette notion de multiplicité des couches, en fait, et de donner cette notion de vie très speed, quoi.
Que vous proposez donc au public qui est invité à s'installer dans cette installation et de pouvoir interagir, mais ça aussi, vous devez finalement cette démarche que vous avez en tant que compositeur d'aller vers le domaine de l'installation, de la performance, à quelqu'un que vous m'avez fait découvrir d'ailleurs, c'est Robert Aiki Aubrey Lowe, un artiste qui lui ose aussi tout à fait s'installer dans un espace dans lequel il joue et il donne des performances hyper longues, j'ai vu ça, où vraiment il donne de sa personne à la fois en électronique et en voix, et on va écouter un extrait de Levitation Praxis. Là, on est vraiment dans un dispositif proche de l'exposition.
Ah oui, complètement. En fait, là, je pense que lui, il a été invité à jouer dans ce dispositif, qui est un dispositif visuel et sonore, une espèce d'installation de tiges métalliques en mouvement et qui résonne. Et lui, il était au milieu de ce dispositif, quoi. Mmh. Et voilà. Après, c'est lui, avec toute sa dimension spirituelle très intense. C'est vraiment quelqu'un qui est magnifique à avoir joué, en fait, qui est très habité. Alors ça pourrait sembler facile, mais en fait ça ne l'est pas, et c'est vraiment intense, quoi. Mmh. En tout cas, c'est sûr que moi, par rapport aux Yeux du Grand Manteau de Nuit, et même par rapport à plein d'autres travaux, en fait, Robert, c'est quelqu'un qui a eu une forte résonance, en fait. On a déjà joué ensemble, mais à chaque fois que j'entends des nouvelles choses, je suis toujours épaté, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette.
Un extrait de Levitation Praxis, réalisé par Robert Heike Aubrey Lowe, où il est en improvisation, on entend sa voix émerger de cette matière métallique, faite de câbles mis en résonance. Alors ça fait aussi résonance avec des artistes comme Alvin Lucier, comme Terry Fox, qui travaillaient sur ces longs câbles, qui mettaient en résonance des lieux. Là, Uriah Barthélémy, avec votre installation Les yeux du grand manteau de nuit, mais d'autres installations que vous avez pu faire auparavant, d'autres projets aussi, vous inscrivez aussi dans une tradition américaine de casser aussi la scène et que la musique sorte de ce rapport frontal entre le public et la scène.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette question-là. Alors, moi, j'essaye pas de m'inscrire dans,
pardon,
dans une tradition. Mais après, ça pose effectivement cette question. Alors, là, le fait d'avoir été au générateur, ça m'a permis de questionner ça, en fait, parce que le premier concert était très frontal avec Lucie Antunes et Yann Joussin. Donc, on était à trois batteurs. C'était très frontal, en fait. On était devant les écrans, chacun son écran. On était opposés, en opposition à chaque écran. Et les gens étaient derrière nous. Donc, c'est une manière de questionner ça. Il y a eu la question du fait qu'on leur tourne le dos, enfin, qu'on tourne le dos, aux spectateurs. Enfin, pour moi, en fait, c'est les inclure avec nous, en fait. C'est pas leur tourner le dos comme si qu'on était des stars comme Miles Davis. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment pour les inviter à être avec nous dans la gestuelle, en fait. Et le troisième concert, en fait, l'idée, c'était d'utiliser l'espace différemment. Donc, avec Gaspard Claus et les mots de Truter. L'idée, c'est qu'on soit au milieu du public, en fait. Et du coup, je pense que ça pose vraiment cette question-là. C'est-à-dire que les gens peuvent regarder soit les écrans, soit nous. Ou alors, s'ils se mettent derrière nous, ils peuvent regarder l'ensemble. Je pense que tous les musiciens ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de tourner le dos au spectateur. Ça peut être très déstabilisant, en fait. Et voilà, j'avais l'impression qu'avec Maud et Gaspard, ça allait être beaucoup plus intéressant d'être au milieu du public, vraiment. Donc effectivement, il y a cette question. Et surtout, je pense que ça interroge d'une manière assez intéressante parce qu'on est vraiment dans le même espace sonore. C'est-à-dire qu'on est aussi sous les enceintes comme les spectateurs. Et il y a un endroit où on peut imaginer se rapprocher des lieux un peu comme... je sais pas, des lieux qui résonnent beaucoup, par exemple, comme une église où il y a... Mais je pense que c'est important, en fait, d'avoir cette proximité. Enfin, en tout cas, c'est un espace que j'aime bien explorer, quoi, en tant que musicien.
Alors évidemment, à la radio, on ne peut pas donner l'impression de tout ça. C'est quelque chose qui doit se vivre en réel, malheureusement. Mais bon, faire une thématique sur l'immersion, de toute façon, j'allais arriver à un moment où ça devenait paradoxal. Mais n'empêche, vous enregistrez de la musique en stéréo aussi, ça vous arrive.
Aussi, ouais.
Par exemple, dans un prochain disque qui va être édité sur le label Demented, qui est un label de techno, donc qui vous a invité, et de musique expérimentale aussi, ouais. Et qui vous a invité à créer ce disque qui est en cours de création, et vous êtes venu... pour la première, une petite primeur,
c'est ça.
Pour le cri du patchwork, avec un extrait qui s'appelle Pointing Time. On va entendre votre musique ici composée et non plus improvisée dans une installation.
Ouais.
Pointing Time, un extrait de votre prochain disque qui sortira sur le label Demented. Merci beaucoup Uriel Barthélémy d'être venu présenter une œuvre imprésentable à la radio, Les yeux du grand manteau de nuit, une œuvre installation immersive qui était présente donc au Générateur de Gentilly, qui était donc coproducteur avec César de cette installation, que l'on va retrouver donc en juin pour le festival La Magnifique Society à Reims, donc organisé par César et La Cartonnerie. D'ici là, on peut vous retrouver aussi en live, parce que vous êtes musicien pas que en installation, c'est tout, musicien live. En duo, ce sera avec Tarek Atoui au Silencio à Paris le 10 mars prochain, mais également en trio avec Hassan Khan et André Vidar. Là, ce sera en Jordanie en avril, prochain, mais aussi, et là je tiens à le dire parce que vous avez une activité internationale tout feu tout flamme, vous serez à Théâtre National de Chine avec qui vous travaillez actuellement pour des créations scéniques. Et donc ce sera en avril-mai prochain. Toutes ces infos, on les retrouve évidemment sur votre site internet, urielbarthelemy.com, et également sur passageprod.com, qui est à l'origine aussi de la production de Ses yeux du grand manteau de nuit.
C'est ça.
Merci beaucoup Uriel, à bientôt.
Ben merci Clément.
Et bonsoir Antoine Berland.
Portrait sonore, Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Portrait sonore numéro 43, répétitif, répétitif. Bobo Dio Lasso, février 2016.
Fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur l'immersion. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui à la technique Pierre Monteil. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son, ainsi qu'à Antoine Villose de la discothèque de Radio France qui jette son tympan là-dedans. La semaine prochaine, on continue notre immersion sonore en recevant Nicolas Chedmaille, compositeur, improvisateur et corniste qui a imaginé en 2001 un corps spatialisé nommé le SPAT. Depuis, il a réuni un ensemble de spatistes sous le nom de SPAT Sonore, un ensemble d'instruments qui englobe l'auditeur sans électronique, sans artifice, uniquement à l'aide de tuyaux et d'embouchures diverses et variées. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, à la page du Cri du Patchwork, où vous pourrez également podcaster cette émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants.
Si je fais un, tagaram, un, parap, deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire, un, parap, deux. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
Vous êtes bien sur France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.